Frédéric Boily, professeur en sciences politiques à l'Université de l'Alberta. Merci beaucoup de nous parler aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais savoir quel portrait on peut dresser jusqu'à maintenant de la course au leadership du Parti conservateur uni.
Un portrait avec plusieurs candidats et plusieurs candidates, ça c'est aussi un fait notable on se retrouve maintenant avec une course à la direction du Parti conservateur uni où il y a pas mal de candidatures féminines et une course aussi, je dirais, qui pour le moment reste encore ouverte. On voit mal s'il y a un meneur ou des meneurs. Certains sondages le laissent peut-être entendre avec Brian Jean, Daniel Smith, qui ont peut-être une reconnaissance déjà un peu plus grande dans l'espace politique albertain que d'autres candidats et candidates. Mais pour le moment, on pourrait jurer de rien là, quant à l'issue de la course, parce que comme je l'ai mentionné, beaucoup de candidats, beaucoup de candidates, et ça fait en sorte que c'est une course où une course en plus où les enjeux sont importants parce que le Parti conservateur uni a aussi besoin de se renouveler. Donc, on n'est pas dans un cas de figure où on a une course à la direction qui s'est enclenchée suite, par exemple, au retrait du chef, comme c'est le cas, par exemple, en Colombie-Britannique, où on est davantage dans la continuité, où d'ailleurs, il y a beaucoup moins de candidats là, pressentis pour le moment. Parce qu'en Alberta, on est justement dans une autre configuration. On a besoin, du côté des conservateurs unis, de remettre le parti à niveau suite à l'épisode Jason Kenney.
Et si on revient un peu en arrière, si vous me le permettez, au début même où Brian Jean avait été élu comme député du Parti conservateur uni, la course à la chefferie était pratiquement déjà lancée avant même qu'on ait publié les règles au sein du parti pour définir qu'est-ce qui était candidat et qu'est-ce qui n'était pas candidat? Qu'est-ce que ça laisse transparaître pour vous?
Bien, déjà, c'est qu'on savait avec ce qui est en train de se passer qu'il y aurait ou bien un vote de confiance qui se profilait déjà à l'horizon dont on ne savait pas à ce moment-là encore le résultat, mais ça fait en sorte que on était dans une période d'effervescence politique à l'intérieur de la grande famille conservatrice, ce qui fait qu'il y avait toutes sortes de, disons, de rumeurs, de plans du côté de Jason Kenney notamment, pour essayer là, de ralentir le processus, pour essayer de faire en sorte que le vote de confiance finalement arrive que plus tard. Et donc, il y a eu tout aussi, je pense que ça c'est encore peut-être plus important, il y a eu toute cette partie de bras de fer entre Jason Kenney et certains membres de du parti pour essayer de retarder le plus possible le vote de confiance parce que certains voulaient l'avoir, il faut s'en souvenir, dès 2021. Et finalement, ça avait été reporté à 2022, mais au printemps, alors que si ça n'avait été que de Jason Kenney, de son entourage, le vote de confiance serait survenu probablement seulement à l'automne. Donc, ça aussi, ça a précédé de manière très importante tout ce qui a mené finalement à cette course à la direction. C'est pourquoi on se retrouve dans un cas de figure qui est un peu exceptionnel. Exceptionnel parce que le chef qui se voit contraint de démissionner en raison d'un vote de confiance trop faible, même s'il était gagnant, et par conséquent, ben ça laisse ça fait en sorte que la course démarre sur les chapeaux de roue, parce que précisément, comme vous l'avez mentionné, déjà Brian Jean s'était fait élire avec son intention de remplacer le chef.
Oui, effectivement. Et ce qui nous emmène justement à la campagne de Brian Jean, parce que bon, pour nous, c'est notre candidat, c'est notre député local aussi. Qu'est-ce qu'on peut dresser jusqu'à date de sa campagne pour devenir chef potentiellement du Parti conservateur uni?
Autonomie. Je pense que c'est le mot de sa campagne et la question de l'autonomisme est particulièrement importante en Alberta suite à tout ce qui s'est passé avec les difficultés économiques liées à la baisse des prix du pétrole. ce qui est un peu derrière nous présentement, mais qui est toujours présent à l'esprit, à savoir que peu importe si on est, disons, conservateur ou néo-démocrate, on sait qu'il y a quand même une certaine transition qui est en cours. Jason Kenney en parlait, donc une transition vers un autre type d'économie. Là où les avis divergent, c'est la vitesse à laquelle on doit faire cette transition, sur quel domaine on doit s'appuyer, l'hydrogène, les énergies vertes, il y a énormément de débats autour de ça, mais même à l'intérieur de la grande famille conservatrice, on sent qu'il y a quand même une certaine préoccupation pour ces enjeux-là. Et dans ce contexte-là, la question qui est posée par Brian Jean et d'autres, mais Brian Jean, c'est l'autonomie albertaine dans un contexte où il y a des pressions économiques très fortes, où le gouvernement libéral de Justin Trudeau, lui, a mis en place un certain nombre de mesures en matière environnementale qui obligent pour le moment aussi l'Alberta à suivre la marche, que ce soit avec la taxe carbone, que ce soit aussi avec des initiatives en matière environnementale, en matière de construction de pipelines. Et Brian Jean a beaucoup reproché à l'administration précédente, c'est-à-dire à Jason Kenney, de ne pas avoir assez défendu les intérêts de l'Alberta. Ça peut paraître toujours un peu paradoxal lorsque on entend un tel type de discours, surtout lorsqu'on est à l'extérieur de l'Alberta, mais c'est un des reproches fondamentaux qu'on a fait à Jason Kenney, c'était de venir de l'extérieur, de venir avec un personnel politique qui finalement, oui, Jason Kenney se faisait élire à Calgary, mais il passait être plus clair de son temps du côté d'Ottawa, et que d'une certaine façon, il était déconnecté des enjeux politiques albertains, et que après avoir fait son référendum sur la péréquation l'automne dernier, ben il l'a comme laissé tomber en n'essayant pas d'amener le gouvernement fédéral à agir sur le dossier la péréquation. Et ça, je pense que c'est le principal cheval de bataille de Brian Jean. Et son, disons, son deuxième argument, c'est que, et ça, c'est un peu plus subliminal, j'ai envie de dire, c'est qu'il vient d'une région, et il vient d'une région du Nord, la région, justement, où l'exploitation des sables bitumineux est importante. Et bon, dans le contexte albertain, si on regarde ça sur une longue période, la plupart des gens politiques viennent du Sud, viennent de Calgary. Il y a eu Ed Stelmach qui était d'une région, plus proche d'Edmonton, mais en même temps, la partie, et c'est un reproche qu'on a entendu dans la dernière année, un parti trop connecté sur les grandes villes et tout particulièrement sur Calgary.
Mm-hmm. Et finalement, qu'est-ce que nous, on pourrait peut-être prévoir pour les mois à venir pour cette campagne-là? Parce que là, quand même, le vote au leadership arrive à grands pas quand même. Là, ça arrive dans quelques mois à peine, là.
Oui, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment tout ce beau monde-là vont se positionner. Bon, on va voir s'ils vont tous se présenter, c'est-à-dire s'il n'y aura pas des désistants ou si certains n'arriveront pas à remplir toutes les obligations, ce qui est toujours possible. Mais là, pour le moment, je pense qu'il y a comme trois groupes. Il y a le groupe des autonomistes, comme je les appelle, c'est-à-dire Brian Jean et Daniel Smith, qui essaient de dépasser ou doubler sur la voie autonomiste Brian Jean en rajoutant. Elle ne parle pas simplement d'autonomisme, elle parle de loi sur la souveraineté, refuser des lois en provenance du gouvernement fédéral qui iraient contre les intérêts albertains, ce qui, sur le plan constitutionnel, n'est pas crédible, mais ça marque un point auprès de certains partisans conservateurs qui, eux, veulent avoir une approche beaucoup plus musclée à l'égard d'Ottawa. Par la suite, il y a ce que je peux appeler les centristes. Travis Tate est l'exemple type de ces candidats, c'est-à-dire la responsabilité fiscale, mais en même temps, on n'essaie pas trop de faire de vagues sur le plan des politiques sociales et religieuses. C'est souvent un problème au sein du Parti conservateur uni, avec quelques autres candidats comme Rebecca Schultz, Rajan Sani aussi, qui essaient justement de se positionner comme étant un peu plus centriste. On le voit d'ailleurs, Mme Sani qui a annoncé que si jamais elle était élue, une enquête publique pour regarder comment la pandémie a été gérée par le gouvernement conservateur. Donc, on y voit au centre, mais en même temps, et c'est plus particulier dans le cas de Mme Maher ou Schultz ou Chani, qu'on essaie de se positionner contre l'establishment du parti. Et donc là, la question qui se pose, c'est qui va parvenir justement à capitaliser le plus là, sur ce sentiment-là qui est à la fois anti-Ottawa et anti-establishment conservateur. Et là, on peut penser à Jason Kenney. C'est pourquoi ça fait une configuration qui est assez particulière. C'est qu'on voit des candidats venir faire campagne d'une certaine façon contre leur chef qui va être là jusqu'au mois d'octobre. Ça fait donc une dynamique politique tout à fait particulière.
Assurément. Et est-ce que vous auriez peut-être quelque chose d'autre à ajouter sur le sujet que j'aurais oublié de mentionner?
Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. La dernière chose que je pense que j'ajouterais, bon, c'est évident que ça va jouer aussi beaucoup sous l'œil du public pendant l'été. C'est-à-dire que là, il va y avoir le Stampede de Calgary. Il faudra voir si quelques-uns des candidats, en principe, devraient s'y présenter. Donc, il va y avoir tout ce travail de terrain-là qui sera fait durant l'été, qui va permettre justement à des candidats, ou bien comme Daniel Smith, ou bien comme Brian Jean, à essayer de prendre une avance par rapport l'un à l'autre, et aussi voir si d'autres candidats, peut-être un peu moins connus du grand public, mais bien connus à l'intérieur de la famille conservatrice, et candidature féminine notamment, est-ce qu'elles vont être capables de tirer leur épingle du jeu en se positionnant peut-être plus au centre, comme je l'ai mentionné. Ça va être intéressant à voir.
Très bien. Frédéric Boily, professeur en sciences politiques à l'Université de l'Alberta, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Ici Vincent Lavoie pour IGL à Plamondon.